Chapitre 17. Tout juste après la brigade, Gabriel était passé par son ancienne banque. Selon les explications du guichetier, il avait transféré ses avoirs vers un établissement lillois du même groupe en 2012, l'année de sa séparation. Son compte principal affichait plus de 30 000 euros, une sacrée somme, mais son assurance-vie avait été clôturée au moment du divorce. En 2013, plus de 120 000 euros lui avaient été versés. Sans doute sa part pour la maison. Les relevés de ces trois derniers mois n'indiquaient que des dépenses, pas de rentrée d'argent. De nombreux retraits de liquide avaient été effectués à Lille ou Bruxelles. Par qui ? Gabriel Moscato ou Walter Guffin ? Il songea aux faux papiers. Ils avaient dû coûter une fortune. À la boutique de téléphonie, il acheta le modèle le plus simple, déjà trop complexe pour lui. Le vendeur vérifia son identité et, après quelques manipulations informatiques, lui fournit un portable avec son ancien numéro en 20 minutes à peine. Il lui expliqua le fonctionnement de l'appareil photo, du GPS. Gabriel débarquait dans une autre dimension. Ses téléphones n'étaient pas loin de faire le café. Sorti du magasin, il composa le numéro de sa mère en appuyant directement sur l'écran. Une révolution pour lui, mais, quelque part, ses gestes lui étaient aussi familiers. La voix tremblotante dans le répondeur lui procura un frisson. Il laissa un message. « Maman, c'est Gabriel. Rappelle-moi dès que tu peux. Tout va bien. Et ça me fait du bien d'entendre ta voix. » Au volant de sa voiture, il longea le centre pénitentiaire. Comment avait évolué la criminalité, les lois, les techniques d'investigation? Dans tous les domaines, Gabriel était largué. Il était un habitant de 2008 propulsé dans le futur par une machine à voyager dans le temps, avec le pire dans ses bagages. Un survivant dans l'ignorance. Il continua sur 2 kilomètres. Au milieu d'une côte, il aborda un quartier résidentiel alangui sur le flanc d'une montagne. Des rangées de maisons avaient été construites sur plusieurs terrasses, les plus hauts perchés étant les plus chers. Il frappa à la porte d'un logement sommaire, première rangée, un cube de béton au mur de crépi couleur crème, aux fenêtres garnies de jardinières de géraniums rouges et violets. Il espéra de tout cœur que Solène Pelletier vive encore ici. Lorsqu'il la vit, il fut si heureux qu'il la serra dans ses bras. Puis il s'écarta, l'observa de haut en bas. Son ancienne collègue n'avait jamais pris soin de son apparence et le temps n'avait rien arrangé. Ses cheveux grisâtres tombaient en paquets désordonnés sur son poncho péruvien en laine d'alpaga. Ses lèvres étaient sèches et gercées comme des dattes. Elle l'invita à entrer en toussant. Quel vent l'amenait chez une jeune retraitée d'à peine un mois ? Gabriel réenclencha le disque de toutes ses dernières heures cauchemardesques. Il ne lui parla pas de la femme avec qui il était arrivé à l'hôtel. Mais elle était au courant pour le corps découvert sur les rives de l'Arve. Elle avait lu un article dans le journal. Elle lui colla une vieille prune entre les mains, but la sienne d'un trait. Puis elle le regarda longuement comme si elle cherchait à fouiller dans sa boîte crânienne.
« Ça t'arrive de m'appeler ?» lança-t-elle en faisant claquer son verre sur la table. « Tu prends des nouvelles ? Tu veux savoir si l'enquête bouge ?»
Gabriel avait frappé à la bonne porte. Solène Pelletier était restée son unique lien avec Saga. Il but son verre par courte lampée, éprouvant depuis la veille une certaine addiction à l'alcool. Encore un sale cadeau abandonné par son autre lui.
Bien sûr, Paul nous a interdit de te fournir les informations au cas où tu chercherais à nous joindre. Sache que je n'ai jamais approuvé une seule seconde ce que tu as fait. Pourtant, Julie était ma filleule. Et nous deux ont bossé ensemble depuis 20 ans. T'as toujours été un mec droit, malgré quelques pétages de plomb. Mais tu peux me dire qu'il n'en a pas dans notre fichu métier. C'était ta fille. T'avais le droit d'être au courant.
Elle se resservit un verre. Les couvertures tapissées de poils de chat sur les fauteuils, les fringues posées sur les dossiers de chaises. Gabriel imagina une vie d'ermite. À sa connaissance, la marraine de Julie n'avait pas connu d'homme. À la brigade, on la surnommait la Dame de Fer.
Tu me parles de cette Vanda, de la Ford Grise. Ce sont les pistes les plus sérieuses qu'on ait eues. Clairement, la femme était venue dans l'objectif de faire des repérages. Elle était liée au conducteur du véhicule. Paul et chaque membre du groupe d'enquête y croyaient dur comme fer. Gabriel serra les poings. Son ancien collègue lui avait donc bien menti. « On dirait que tu n'as pas fait le rapprochement », constata Solène. « Pas étonnant. C'est moi qui avais trouvé le lien à l'époque. » « Quel rapprochement ?»« Wanda Gershwitz. Ça ne te dit rien ?» Il secoua la tête. « C'est la nana dans le film des années 1980, un poisson nommé Wanda. Tu te souviens ? Jamie Lee Curtis jouait le rôle de Wanda. »
La seule image qui revint à Gabriel se résuma à celle d'un homme piochant un poisson rouge dans un aquarium pour l'avaler. Vaguement.
Wanda, c'est celle qui participe au vol de diamants avec ses complices, qui manigance tout. Comme tout le monde, t'avais vu ce film. Et comme tout le monde, tu ne te rappelais que le prénom du personnage. Wanda. Wanda Gershwitz. Si personne n'a fait attention à notre fausse Wanda, c'est parce qu'elle a tout fait pour ne pas se faire remarquer. Pas de forfait petit déjeuner à l'hôtel. Chambre avec porte qui donne directement sur le parking et lui évite de croiser les gérants. Une anonyme. Pendant 15 jours, elle a probablement observé et suivi Julie. Peut-être même qu'elle l'a abordée dans une rue, un magasin, à la piscine. Qui se méfierait d'une femme? Ce samedi-là, elle savait que Julie irait faire du vélo dans l'après-midi. Elle a prévenu son ou ses complices de la Ford Grise, qui ont pris la route de je ne sais où, et se sont chargés du kidnapping. Puis Wanda a quitté la ville définitivement. Un coup à plusieurs, propre, sans bavure. C'est le scénario retenu. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, on s'est retrouvé dans une impasse. C'était trop tard. Le temps avait passé, plus personne ne se souvenait de rien.
Elle fixa son verre avec un soupir.
Rien n'a jamais abouti dans cette enquête. Je suppose que t'es au courant pour le Cointre ?
Oui. Je l'ai croisé dans le couloir hier sans le reconnaître. J'ai voulu lui parler ce matin, mais il ne travaille pas le samedi.
On y a cru, là aussi. Ouais, une sacrée piste. Un type du coin qui, un soir de 1997, est pris d'une pulsion et manque de violer une femme à Chambéry. Le mec avait à peine 20 ans à l'époque, mais ça reste des bêtes dangereuses, ces gens-là. Enfin, c'est ma conviction. Et c'était la tienne aussi.
Ça l'est toujours.
Et c'est pas lui, Gabriel. Il bossait au moment de l'enlèvement. On a ratissé sa vie, sa maison, le moindre centimètre carré de son jardin, de son sous-sol, sans résultat. Qu'est devenue Julie ? Pourquoi elle ? Qui était cette Wanda ? Nul ne le sait. Tu ne peux pas imaginer à quel point tout cela m'a rendu triste quand l'association s'est dissoute en 2015. Jeff ne voulait plus être le secrétaire, toi t'étais trop loin. Il n'y avait plus de souffle, plus d'envie. À la fin, on n'était plus que 4 péquenots. Il n'y avait plus rien à chercher, rien à espérer. Ça faisait 7 ans. Je suis parti avec cet échec comme un fardeau. Julie était ma filleule. Il n'y a rien de pire pour un gendarme que de ne plus être dans le coup et de devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours.
Gabriel vint s'asseoir à côté d'elle, lui glissa une main dans le dos. Il avait toujours éprouvé une tendre affection pour elle. Sur le rebord de la fenêtre, un vieux chat ronronnait. « Je sais que t'as fait ton maximum, Solène. Tu n'as rien à te reprocher. » Elle baissa alors les yeux. Gabriel sentit la tension dans sa nuque. « Y aurait-il quelque chose d'autre que je devrais savoir ?» Elle marcha jusqu'à la fenêtre et prit son chat, le caressant d'un geste tendre.
Deux choses. La première, c'était quelques semaines avant que je parte à la retraite fin août de cette année. Tu m'as contacté pour me demander de fouiller dans le fichier des empreintes génétiques et de t'envoyer par mail les graphiques représentant le profil ADN de Julie et celui d'une autre jeune femme, Mathilde Lourmel.
Des profils génétiques. Pourquoi ?
Tu ne voulais rien me raconter. Pour ne pas m'impliquer, tu disais. T'avais un truc bizarre dans la voix, une sorte de peur qui m'oppressait d'ici. Visiblement, tu tenais quelque chose qui t'avait mené du côté de Bruxelles. Tu devais tout m'expliquer quand ça serait terminé.
Quoi ? Qu'est-ce qui devait être terminé ?
Je n'en sais rien. Sur le coup, j'ai refusé de te donner les profils. Les accès aux fichiers des empreintes génétiques sont tracés, je ne voulais pas de problème. Mais j'ai fini par te rappeler quelques jours plus tard. Je l'ai fait pour Julie, pour toi. Pourquoi Mathilde Lourmel? Qui est-ce?
J'avais fait des recherches sur Internet. C'était une disparue. Vingtaine d'années, elle habitait à Orléans. Ça s'est passé en 2011, 3 ans après Julie. Apparemment, elle s'est volatilisée du jour au lendemain sans plus donner le moindre signe de vie.
Comme Julie.
Comme Julie, oui. Et je n'en sais pas plus. Je peux juste te dire que je n'ai jamais vu l'ombre de son nom dans notre dossier et que j'ai préféré ne pas creuser dans cette direction pour ne pas attirer l'attention.
Gabriel n'y comprenait rien. Pourquoi avoir réclamé la signature ADN de sa fille et celle d'une inconnue? Quelle était l'utilité de ces graphiques qui, en l'état, ne voulaient pas dire grand-chose et étaient surtout illisibles? Et que faisait-il à Bruxelles? Il y avait forcément un rapport avec la Ford grise volée par les délinquants en Belgique. Dans tous les cas, sa demande à Solène n'avait certainement pas été anodine. Il avait dû suivre une piste sérieuse.
« Tu as parlé de 2 infos », lui rappela-t-il.
« Oui, oui. Ça fait longtemps que ça me démange de te le dire, mais... t'aurais débarqué ici avec tes gros sabots et à coup sûr, ça aurait foutu en l'air ma fin de carrière. Paul m'aurait plombé. Bref, aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous. Et puis le dossier est classé depuis 4 ans. Cette affaire est peut-être terminée pour la justice, mais toi t'es là, en face de moi, avec une mémoire d'huître, alors ?»
Gabriel s'arracha du fauteuil en apnée. Solène considéra sa silhouette dans le reflet de la vitre. Elle désigna du menton la ville en contrebas.
« T'as vu le nuage d'oiseaux et le carnage l'autre nuit? Je suis descendu voir les cadavres, c'était dément. Ça m'a fait penser à une des 10 plaies d'Égypte. Les grenouilles tombèrent et recouvrirent l'Égypte. Exode 8, verset 2. Un autre passage de la Bible me fait penser à Sodome et Gomorre, les villes détruites par une pluie de feu parce que leurs habitants ont péché. Peut-être que Dieu a eu envie d'infliger un châtiment à Saga pour la punir des drames qui s'y sont déroulés. »
Le chat ronronnait. Une douce chaleur enveloppait Gabriel. L'alcool, le chauffage à fond et les élucubrations mystiques de Solène. Elle avait toujours été croyante et priait à l'église chaque dimanche.
« Ce sont des étourneaux roselins qui viennent des steppes d'Ukraine, il paraît. Ils établissent leur dortoir en bord de ville pour échapper aux prédateurs, avant une grande ligne droite pour l'Espagne. Je n'avais jamais observé un tel phénomène de ma vie. Ils tournent et tournent encore, on dirait parfois une tornade. Bundy, il passe ses journées ici à les regarder. Hier, il avait carrément un filet de bave aux lèvres. Ça doit le rendre dingue de ne pas avoir d'ailes. »
Elle reposa le chat et se retourna, déterminée.
« T'es venu en bagnole ?»
Il agita sa clé. Elle alla s'envoyer une dernière rasade et décrocha son 3/4 qu'elle possédait déjà 12 ans plus tôt. Avec le poncho péruvien, ça faisait un sacré mélange.
« On y va, »
lâcha-t-elle.
« Où ça ?»« À l'ancienne centrale hydroélectrique du lac Miroir. »